Yann. Yann se réveille en sursaut. Il ne comprend pas pourquoi. Il ne se sent oppressé par aucun cauchemar, ni ne ressent aucune douleur. Il n'y a aucun bruit, juste la petite lumière de la veilleuse de la terrasse du soleil redouté qui tamise leur bungalow, le Nuku Hiva, d'une pâle clarté. Il jette un premier regard à droite sur le réveil du chevet. 1h du matin. Un second à gauche. Farein est allongé à côté de lui, sur le dos, les yeux grands ouverts fixant les ombres des bougainvilliers qui dansent au plafond. Est-ce elle qui l'a réveillé? Un geste discret pour le secouer ou une simple transmission de pensée. Tu ne dors pas? Non, je n'arrive pas à trouver le sommeil. La main de Yann se pose sur le ventre de Farein. Elle ne réagit pas. Continue de se passionner pour les ombres chinoises sur l'écran du plafond. Yann maudit la chemise de nuit que sa femme porte jusque sous les tropiques. Descend en escaladant les plis. S'arrête, guettant dans la pénombre un cœur qui s'accélère, une poitrine qui se soulève, une paupière qui se ferme. La nuit aux Marquises, le thermomètre ne descend pas sous les 20 degrés. Farein reste de glace. La main de Yann atteint enfin la frontière du tissu, au bas de la pente de ses cuisses légèrement repliées. Il la rebrousse, le retrousse, et s'aventure aux lisières du sexe dénudé. Farein reste encore quelques secondes sans réaction, puis se redresse. Rideau. Elle est déjà debout, chemise retombée. Elle se dirige vers la fenêtre que la veilleuse éclaire. Yann aimerait réagir, se sentir humilié au point d'exploser, de balancer à Farein qu'elle ne l'a pas touché depuis 6 semaines. Et pourtant c'est lui qui culpabilise. Il sait qu'au fond de lui, s'il a osé ce geste, s'il a dévoilé son envie, ce n'est pas parce qu'il désirait Farein. C'est parce que la nuit est chaude. C'est parce que l'île est sensuelle. C'est parce que les lectrices, les autres lectrices, sont jolies. C'est parce qu'il a passé une bonne partie de la journée à regarder Héloïse mordiller son crayon, bloc-notes posé sur ses jambes nues. Farein est trop intelligente pour ne pas comprendre ça. Elle se tient debout devant le petit bureau de bois de rose, le seul coin éclairé de la pièce. Elle fait tourner entre ses doigts, telle une toupie, le galet tatoué qui y est posé, à côté des vêtements de Pierre-Yves que Yann a récupérés. Le gendarme se souvient de la réaction paniquée de sa femme quand il a découvert le symbole tracé au feutre blanc. Pour la première fois, il ose l'interroger. « Farein, tu connaissais ce signe marquisien ? Lenata, tu savais ce qu'il signifiait ?» La commandante pose un doigt sur le galet pour bloquer sa rotation infinie. « Si tu t'intéressais un peu à moi, à mon travail, à mes enquêtes, tu le saurais toi aussi. » Yann lutte encore contre un sentiment de colère. Il repense à toutes ces soirées passées à écouter les récits des interminables journées de sa femme, les grandes affaires du 15e, les braquages de bijouteries prestigieuses, les détournements de fonds à coups de millions, les prises d'otages évitées, les crimes secrets des célébrités dont elle ne peut rien révéler, pas même le nom. Alors que lui avait depuis longtemps renoncé à évoquer ces banales histoires de cambriolage de pavillons, de voitures fracturées sur un parking de supermarché, d'ivrognes sans permis arrêtés devant un café. La saga sans intérêt des pauvres gens dont on n'a même plus pitié. Yann repousse le drap du lit. « Ce tatouage, » insiste-t-il. « Lenata, c'est celui que les deux filles assassinées s'étaient fait tatouer. C'est un message que Pierre-Yves t'envoie ?» Farein se tourne de trois quarts. La terrasse éclairée à travers les rideaux dessine des jeux de lumière sur son visage. Des traits douloureux que les ombres étirent. « Je ne sais pas. » dit doucement la policière. « C'est toi qui mènes l'enquête, avec la petite Maïma. Moi, je suis hors jeu. C'est ce que tu veux, non ?» Yann se redresse. Toute sa colère est emportée par une vague de tendresse. Il n'a jamais su résister à Farein dès qu'elle laisse tomber son armure de commandante et qu'elle n'est plus qu'une petite fille malheureuse, limite boudeuse. Une petite fille à qui, cet après-midi, on a interdit de jouer. Yann se lève. Si. Bien sûr que si. Il ressent encore du désir pour Farein. Ce ne sont pas les tropiques qui aiguisent les sens. Ils rendent simplement plus difficile à supporter l'abstinence. Pour celle qu'il aime. Qu'il croit aimer. Qu'il veut aimer. Yann se glisse derrière Farrain, entièrement nue. Au moment où son sexe frôle ses fesses, elle fait un pas de côté. C'est elle-même seulement aperçue qu'il bandait. « Tu n'es pas hors jeu », répond le gendarme au dos de la commandante. « Mais tu as un roman à écrire. Tu es venu pour ça. » Le dos ne dit rien. Les mains de Farrain fouillent l'étagère, celle du milieu où sa valise est rangée. Sa bouche répond enfin. Au placard, plus qu'à son mari. « Ne te fatigue pas, j'ai compris. Tu as raison, c'est sans doute mieux ainsi. » Elle force un petit rire de défi. « Et moi qui avais si peur que tu t'ennuies. Je ne me mêlerai pas de ton enquête, rassure-toi. Je te laisse ta petite murder party. Mais je ne te donne qu'un conseil. Sois discret. Méfie-toi. De tout le monde. » Ses mains fouillent nerveusement dans la valise. De cette Marie-Ambre qui joue un peu trop les gourdes imbibées, de cette Héloïse aux grands airs de veuve éplorée, de Clem, l'écrivaine délurée, et même de la Belge, la gentille Martine qui, sous son allure de grand-mère en tenue de clown, passe ses journées à essayer de fouiner partout pour alimenter les ragots sur ses réseaux sociaux. Mamie Titine, c'est un paparazzi sans appareil photo. Farrain referme sa valise. Elle tient dans ses mains une chemise cartonnée sur laquelle un tatouage marquisien est dessiné. Un Enata. Quant à mon roman, mon chéri, il est déjà écrit. Yann lit par-dessus son épaule. La chemise rouge. Un nom. Un titre. Au-dessus du dessin. Pierre-Yves François. Terre des hommes, tueur de femmes. L'affaire du tatoueur du 15e. Un manuscrit. Vu l'épaisseur, un volume de plus de 300 pages. Panique Yann. Tu lui as volé ? Farrain pose la chemise sur le bureau et accepte enfin d'accorder un long regard à son mari. Le premier. Tout le monde te trouve si gentil, mon chéri. Un peu gaffeur. C'est ce qui m'a tant charmé chez toi. Ce côté maladroit. Mais au fond, c'est juste un manque d'effort. De la paresse. Un masque de délicatesse. Tu lui as volé. C'est bien ce que tu m'as demandé. Et tu vis avec moi depuis ces 20 dernières années. Farrain s'assoit, déplace la chemise jusqu'au maigre halo de lumière, commence à en sortir une feuille et s'arrête. J'ai besoin de travailler. On n'y voit pas assez. Je sors sur la terrasse. Elle attrape son téléphone portable posé sur le bureau. Modèle danois, coque rouge à grande croix blanche. Yann a compris. Yann décide de se recoucher. Sa femme a déjà la main sur la poignée quand elle s'adresse une dernière fois à lui. « Une seule question, mon chéri, » demande Farrain d'une voix exagérément douce. « À moins que je ne viole le secret professionnel de ta précieuse enquête, quand tu as trouvé le galet sur les vêtements empilés de Pierre-Yves, de quel côté était-il tourné ?» Yann ne répond rien. Non pas parce qu'il veut garder pour lui le secret de l'enquête. Simplement parce qu'il n'a pas fait attention. Parce qu'il n'en a aucune idée. Et parce qu'il est hanté par une autre question. Jusqu'où Farrain a-t-elle pu aller pour récupérer ses 300 feuilles de papier ?